France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Valère Novarina. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Nocturne Vulgaire, extrait du nouvel album du guitariste Bill Frisell. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui sera ce soir à Strasbourg, qui a été désignée pour un an capitale mondiale du livre par l'UNESCO. Le tout est réalisé par Margot Page avec Élise Leu à la prise de son. Bonsoir Valère Novarina.
Bonsoir.
Votre pièce, Le jeu des ombres, se joue jusqu'au 5 mai au Bouffe du Nord à Paris, dans une mise en scène de Jean Bellorini, texte bien sûr publié aux éditions POL. On va parler de cette actualité qui est en fait ancienne, on le verra, mais on va profiter aussi de votre venue pour essayer de déplier quelques aspects de vos pratiques créatrices, puisque si vous êtes auteur, vous êtes aussi metteur en scène et plasticien. Alors, il faut déjà s'arrêter sur ces mots, parce que les mots, ils sont évidemment très importants pour vous. Vous avez pu vous qualifier d'écrivain pratiquant, pratiquant le théâtre, pratiquant la peinture. Est-ce que ça vous convient toujours comme appellation?
Oui, mais il peut pratiquer beaucoup d'autres choses aussi. Ça peut être... Une façon discrète de ma position dans le christianisme.
Aussi. Je rappelle, alors, vous êtes l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, tous genres confondus, des pièces de théâtre, des essais, des romans théâtraux. Vous avez vous-même donc très régulièrement mis en scène vos textes, des livres traduits dans de très nombreuses langues, de l'allemand au japonais, de l'arabe au roumain, du slovaque au turc, passant par l'hébreu, le grec et bien d'autres. Je me demande bien comment font les traducteurs et traductrices face à votre langue. C'est un beau métier que celui de traducteur ou traductrice. Alors concernant le théâtre, puisque c'est vraiment l'actualité qui nous intéresse aujourd'hui. La première fois que vous assistez à une représentation, c'est l'Ours de Tchekhov. Vous avez 4-5 ans, c'est à Thonon, et le rideau s'ouvre et vous voyez votre mère. Alors, ce qui est normal, parce qu'elle était comédienne. Mais en quoi est-ce que vous pensez que ça a forgé un lien avec le théâtre?
Je sais pas, aussi le fait qu'elle m'ait choisi ce prénom moliéresque, enfin il y a une sorte, quelque chose était dicté par ma mère. Mais ça n'empêchait pas d'être critique, et même un peu vache parfois, parce que un jour, il y a 15 ans de ça, elle me convoque, il faut que je te voie vendredi prochain. C'est le premier rendez-vous qu'elle me donnait de ma vie. Le vendredi, j'arrive, et elle me regarde avec son regard bleu acier, et me dit, écoute, ton père le pense, il n'ose pas te le dire, tes amis la même chose, etc. Personne ne comprend rien à ce que tu écris. C'était une espèce de... J'étais complètement indifférent, mais quand même, ça m'a un peu fait de la peine. Et alors, elle est allée encore plus loin dans les choses surprenantes. À un certain moment, tout bon me veut me faire chevalier de la Légion d'honneur. J'appelle ma mère, je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? J'accepte, oui, c'est pas le rêve de ma vie. Enfin, bon. Elle me dit, mais tu as tort! C'est splendide sur un cercueil. C'est terrible. C'est une réplique. C'est la réplique qui tue.
Bon, vous l'avez accepté ou pas d'ailleurs?
À part ça, ma mère jouait de l'accordéon, chantait très bien, avait un groupe de théâtre amateur, était quelqu'un de très vivant. Enfin bon, elle est allée un peu loin.
Elle est allée loin. Vous l'avez accepté, là, cette Légion d'honneur?
Oui, bien sûr. Oui. Bon. Mais ni ne se refuse, ni ne se demande, ni ne se porte.
Mais se pose sur un cercueil, éventuellement. Bon.
Mais c'est violent, quand même.
Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, autre moment important, vers 8 ou 9 ans, vous entrez en pension à Morzine, Valère Novarina, chez Madame Marula. C'est là, paraît-il, que vous commencez à écrire d'abord des poèmes, des théories scientifiques que vous dites avoir cachées sous des pierres, et puis vous avez dit aussi avoir écrit tous les jours depuis 1958. Or, votre premier livre publié, c'était chez Bourgois à l'époque, Le Babil des classes dangereuses, est publié en 78. Ça veut dire que vous avez écrit tous les jours pendant 20 ans avant que quelques textes que ce soit publiés. Ça veut dire que l'écriture, ça a toujours été une nécessité.
Et c'était aussi une honte. C'était aussi quelque chose qui fallait que personne ne sache, que c'était entre la langue française et moi, que ça se passait, etc. À tel point que, à ton nom, j'avais un petit carnet vert que j'ai encore, comme ça, avec des tas de des réfutations à ma façon des pensées de Pascal, etc., des déclarations. Et mes camarades avaient repéré ce carnet. Un jour, il y a eu une course folle pour me piquer le carnet. J'ai couru comme une antilope, tellement il fallait fuir. Mais c'était très, très violent. Et la première personne à qui j'ai donné quelque chose à lire, c'était Bernard Dort, mon professeur Bernard Dort. Et c'est le premier. Et je me souviens, je suis allé dans son appartement, lui donner le livre, et j'étais complètement hébété. Je lui dis, je suis content que ce soit fini, je suis content que ce soit terminé, je suis content que ce soit terminé, je suis content que ça finisse. C'est très, très vieux. Le rapport était très, très charnel, très, très, très violent et exagéré. Enfin, mais c'était quelque chose. Et puis que les textes soient cachés, que personne ne sache, mais jusqu'à Dort, personne ne savait. C'était une idée quotidienne. Quant à la première impulsion pour écrire, je la relis, je ne sais pas si j'améliore un peu le tableau. J'avais un poste à galène. Plus personne ne doit savoir ce que c'est qu'un poste à galène. C'est un poste avec une aiguille qui se plante dans un petit bout de rocher et qui parle. Parce qu'on entend tout d'un coup la radio suisse, etc. Et j'ai entendu quelque chose comme une sonate de Beethoven, la pathétique ou une autre, je sais pas. Et ça, c'est la musique qui a déclenché quelque chose. Et pendant longtemps, j'ai gardé ces manuscrits, je les ai entourés de papiers que personne ne puisse les ouvrir. Ils sont toujours là et je sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin, c'était, disons, quelque chose de qui engageait physiquement.
Ouais, méfiez-vous, quelqu'un les ouvrira un jour.
Oui, oui, oui.
Ils sont faits pour ça.
Je serai à l'abri de tout.
De tout commentaire. Alors, effectivement, après le baccalauréat, vous étudiez la philosophie, la philologie à la Sorbonne. Et en parallèle de ces études, alors, il faut dire, Valère Novarina, que vous aviez aussi le désir d'être comédien. Vous tentez le conservatoire, vous le ratez. Donc, vous dites, il ne faut peut-être pas insister, mais quand même, bon, vous jouerez dans Homme pour Homme de Brecht, mise en scène de Jean-Pierre Douniac. Vous renoncez à votre première vocation, celle de mime. Ce qui est quand même un peu paradoxal.
Oui, c'est curieux.
Quelqu'un qui écrit tant de mots.
À Genève, on était venu voir un film de Marcel Marceau sur Tchekhov. C'était des choses qui venaient de Tchekhov. Je sais plus. La Houppeland, le manteau. Il y a le manteau de Tchekhov, je crois.
C'est Gogol, ça, non?
Oui, j'étais complètement. Complètement fasciné par le mime. C'est curieux pour comme formation d'un écrivain. Et je me souviens aussi parce que Jean d'Asté venait très souvent à Tonon, qu'on le recevait comme le Messie. C'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais je sais plus ce que je voulais vous dire.
Mais on parlait de première vocation de mime.
Oui, c'est ça, que le bras droit de d'Asté, je sais plus comment il s'appelle, était un jour à Tonon à une tablée où il y avait les acteurs, etc. Et il a eu une sentence comme ça qui le théâtre européen est un théâtre de bavards. Alors, j'étais dans le fond, langage et contre le langage. Enfin, langage.
Mais,
Et s'il y avait des. J'étais jaloux de tous ceux qui lisaient. Je me souviens, enfin, d'une façon un peu folle, puisque dans le métro, si quelqu'un lisait le journal, j'étais jaloux qu'il ne me lise pas, moi. Non, il y a eu des dépassements un peu de tous les côtés.
Beaucoup de paradoxes dans tout cela.
Paradoxes, oui.
Bon, comédien, mais mime, donc non. Vous apprenez ou vous observez, ou vous êtes aux côtés de Jean-Marie Villégier aussi quelques années. Ça vous sert comme base de travail pour le travail de metteur en scène que vous déploierez plus tard. Mais il faut dire aussi que dès votre arrivée à Paris, Valère Novarina, vous allez voir, alors je vous cite, comme un affamé, tous les acteurs comiques, Bourville,
voilà.
Noël, Serrault, Galabru. Et puis donc il y a cette fascination pour Louis de Funès, et notamment dans la pièce Oscar. Vous voulez même faire une thèse sur de Funès. Là, c'est Dort qui vous en dissuade.
Oui, mais je voulais le faire avec Dort. Elle
a dit non, c'est pas sérieux. Mais
finalement, j'ai travaillé sur Arthaud.
C'est un autre genre. Mais avant de parler de Louis de Funès, écoutons cette courte archive où l'acteur parle de son art.
Et pour faire un bon comique, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il ne faut surtout pas ce qu'on appelle jouer comique. Ça, c'est un grand secret que je donnerai à des élèves. Faut jouer sincère, presque de la tragédie.
Dans la vie de tous les jours.
Faut pas faire ce que j'appelle faire le gugus, faire le comique. Ça ne passe pas du tout. Là, c'est un clin d'œil au public, et là, il se méfie le public. Il dit attention, on veut que je rie.
Quand on est clown et qu'on travaille avec un metteur en scène, est-ce que c'est facile?
Oui, si le metteur en scène doit diriger sans que ça se voit, sans que le clown, enfin que l'acteur, il ne faut pas le sentir. Parce que je crois qu'un acteur comique est un auteur, déjà lui-même. Regardez Raymond Dodo sur les Fernand Reynaud, ce sont des auteurs. Et je ne vois pas pourquoi, d'un seul coup, il se ferait diriger de A jusqu'à Z. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je soumets un tas de choses, il me met en garde contre mille autres choses. On fait un film en collaboration, moi j'amène ma collaboration d'acteur, et lui sa collaboration de technique, et puis au-delà de la technique, parce qu'il a du goût, il voit tout ce que je fais, c'est lui qui, le metteur en scène remplace le public. Quand il fait une bonne tête, ça va, c'est réussi.
L'acteur est aussi un comique, est un créateur. Alors il faut dire qu'en 85, Valère Novarina, vous écrivez cette pièce intitulée « Pour Louis de Funès » qui va être créée sur les ondes de France Culture, interprété par André Marcon, dont on reparlera. Alors, il y avait certes ce rêve que André Marcon vous a raconté, mais ce texte-là, est-ce que c'était une forme de dette ou de tribut ou une tentative de percer le mystère de cet acteur, de Louis de Funès, qui vous a tant fasciné?
C'est aussi l'observation. C'est écrit à la Bastille, au théâtre de la Bastille. Et il y avait une place dans les premières rangées, etc., qui était extraordinaire parce qu'on pouvait être dans la loge de l'acteur et la moitié de 40 secondes après, public assisté. Et tous les soirs, j'allais là pour observer ce passage incompréhensible, ce changement physique physique, parce que les acteurs aussi, s'ils sont pendant qu'ils jouent, ne tombent à peu près jamais malades. Et ils soulèvent, Michel Bouquet soulèvera une table, etc. Il y a une sorte de d'énergie extraordinaire au théâtre, et la notion d'énergie est fondamentale, enfin.
Et elle l'était ô combien chez De Funès.
Oui, alors ce qui était très beau aussi, c'est son extrême sobriété. Parce que il se trouve que j'avais vu en même temps, la même année, Hélène Weigel, qui jouait pour la dernière fois la mère. Et alors c'était un jeu comme ça, très dessiné, très etc. Et De Funès, quand il n'était pas dans une de ses fureurs comiques, était extraordinaire, parce qu'on voyait qu'il fallait qu'il reprenne des forces avant le dernier acte, etc., comme une sorte d'athlète du cœur, dirait Artaud, mais le côté expérience scientifique des choses. Et dans le fond, voilà, un rapport aux essais, au laboratoire, aux choses, voilà.
Alors, revenir quand même sur quelques fondamentaux de votre écriture, Valère Novarina, commençant par dire que pour vous, le verbe agit, que le langage, c'est un événement de la nature. Alors, on parlait d'écrivains pratiquants. Alors, on revient à l'évangile selon saint Jean. Au commencement était le verbe, et le verbe était en Dieu, et le verbe était Dieu. Vous êtes aussi lecteur de saint Augustin d'Hippone. Les écritures, qu'est-ce qu'elles apportent, ou en quoi elles importent dans votre travail d'écrivain?
Ce qui est curieux aussi, c'est que, par exemple, les protestants traduisent « au commencement était la parole » et les catholiques « au commencement était le verbe ». Hegel traduit « au commencement était la raison ». C'est quand même une autre histoire. C'est très, très extraordinaire tout ce qui se joue autour l'appel, autour de la création par la parole, enfin, l'appel de la parole. Et que l'idée que la parole appelle. Elle ne désignait pas, elle ne tue pas, elle n'encercle pas, mais elle a que les choses sont appelées. Et peut-être nous aussi on n'est pas appelés. Enfin, l'idée aussi de don, de dette, de je sais pas comment dire que. Et puis enfin deux trois idées comme ça qui me reviennent tous les jours. L'idée que la pensée achève le travail de la respiration. La pensée est l'achèvement de. Entrer dans le corps, le passage par la mort qu'il y a dans la respiration, puisque on s'étouffe un instant avant de reprendre, c'est l'idée que la pensée est un événement physique, matériel.
Et puis, il y a aussi une chose qu'on entend, qui revient dans votre travail, c'est la liste, la litanie, le langage comme magie, proféré, performatif, dit-on. Alors, évidemment, on pense au derviche tourneur, on pense à Rumi, on pense à cette parole au sacré, à Dieu. Mais de fait, votre théâtre, il est quand même à la fois sacré et blasphématoire.
Ah oui, totalement, oui. Mais Rumi, je suis allé en Turquie et j'étais à côté du cercueil de Rumi et j'ai trouvé que c'était certainement un saint. Mmh. Voilà. Des choses comme des choses très spirituelles, mais des choses soufflées. Enfin, mmh. Faut pas oublier que le mot esprit, il y a aussi dans l'esprit l'air, etc. Mais il y a aussi le vent, le vent qui fait tout se déplacer. Donc le moteur est peut-être dans l'esprit, le moteur fondamental.
Alors, je vais profiter quand même de ce moment de notre conversation. Vous évoquiez tout à l'heure la musique. On va découvrir votre choix musical, Valère Novarina. Alors, il y avait deux propositions. Il a fallu que je fasse un choix. J'ai choisi un extrait de la cantate de Bach, Trauer Road. Pourquoi cette proposition?
C'est un des plus beaux textes, oui, de Bach, etc. Et puis, elle me fait penser aussi à une très étonnante phrase de Luther. Luther dit ce qu'il y a de plus proche de la théologie, c'est la musique. C'est surprenant, hein?
On y réfléchit en écoutant.
Oui, oui.
Untertanen los.
Après cette pièce et cette cantate de Bach, retour à l'écriture, Valère Novarina, avec tout d'abord une archive, une autre forme de musique. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, vous aviez envie de faire une thèse sur Louis de Funès, ce sera sur Antoine et Artaud. Alors avant de parler de lui, un court extrait enregistré à la radio par Artaud lui-même en 1947.
L'homme, quand on ne le tient pas, est un animal érotique. Il a en lui un tremblement inspiré, une espèce de pulsation productrice de bêtes sans nombre, qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu. Cela faisait ce qu'on appelle un esprit.
Alors, quelle place occupe Antonin Artaud dans votre panthéon, Valère Novarina?
Il s'est combien totalement installé dans une année, parce que j'ai lu absolument rien d'autre que lui, et je descendais acheter du tabac gris une fois par semaine, c'est tout. J'étais complètement enfermé dans Artaud. Il faut dire qu'à l'époque, mes copains de la Sorbonne ne savaient pas qui c'était. J'ai fait une thèse avec Virmaud, et avant, j'étais allé voir Bernard Dort, etc. Mais il n'était pas dans... En Hippocagne, mon professeur de français trouvait que ce n'était pas intéressant, etc.
Ah ouais.
Mon oncle Gilbert, qui est un poète vaudois, qui habitait Genève, me disait de temps en temps, n'oublie pas qu'il était fou. Et je suis même allé au Mexique peu de temps après, pas vraiment chez les Tarahumara, mais pas loin, etc. Donc, une année avec ce texte difficile, sans que personne m'aide, tout le temps à la Bibliothèque nationale, des choses qui n'étaient pas rééditées. J'étais tout seul, vraiment tout seul avec Artaud. Et après, une fois que j'ai bouclé, j'ai plus jamais réouvert Artaud.
C'est vrai.
Dans le fond, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, il faut que j'aille voir.
Ah, vous seriez sans doute surpris.
Mais oui.
Forcément. Faut dire qu'il y a... Bon,
il y a des textes magnifiques comme le Van Gogh.
Ouais.
Le Van Gogh. Mais il y a aussi des phrases antisémites. J'étais aussi... Enfin, c'est que ça devient... C'était courant, voilà.
Alors, bon, il y a beaucoup de sources différentes hein, dans votre univers verbal, Valère Novarina, puisqu'il y a un des langages, évidemment, auxquels vous vous nourrissez, celui de... on va dire, du peuple, des paysans, et notamment, ça a évidemment à voir avec la Haute-Savoie de votre enfance, non seulement les particularités hein, de ce langage régional, mais aussi les particularités ultra-locales et ce goût des surnoms ou des noms donnés à vos personnages, il vient aussi de là, parce que il était lié à des histoires personnelles. Quand le langage devient personnel comme ça, et ça devient de la poésie, en fait.
Oui, il y a eu un moment où je pouvais pas voir une liste de signataires de quoi que ce soit sans la lire entièrement. J'étais travaillé par les listes, et tout d'un coup, ça a rencontré le fait qu'en Haute-Savoie, les paysans avaient leur nom, ils s'appelaient Taberlet, Mornier, je sais pas quoi. Et en même temps, il y avait le prénom intime.
Le surnom intime.
Qui parfois était moqueur. De sorte que j'ai fait un texte en parlant de gens que je connaissais. Et ensuite, j'ai demandé à des facteurs de me donner le nom des gens de Morzine, de Morion, etc. Mais alors, du coup, ils me donnaient les surnoms du village d'à côté. Mais pas des villages à eux. Et il y avait des choses extraordinaires. Parce que j'ai recueilli ces noms sans parfois les comprendre, et quelqu'un m'a dit « Tu as connu Trigaline ou tu as su ce qu'il a fait ?»« Ah ben non, je sais pas. » Eh ben, Massongy, l'instituteur, après la guerre de 14, a demandé « Qu'est-ce que vous avez chez vous comme bestiaux ?» Il y en a qui a dit « Trigaline, trois poules. Fanfouet le pio. » Le pio, c'est le pivert. Son ancêtre était creuseur de pierre. Fanfouet le pio, etc. 6 et 3, non, 6 et 4, 8, ou je sais plus quoi. Quelqu'un qui boitait sur le rythme, 6 et 4, 8. C'était chaque fois des caricatures. Mais j'ai rassemblé ces textes pendant assez longtemps. Et à un certain moment, j'avais fini. J'avais utilisé, parce qu'il fallait chaque fois un verbe différent, un verbe qui puisse se commettre dans un champ de foire, etc. Alors je trouvais plus de verbes, je voulais plus de noms. Et les gens continuaient à m'apporter des noms. Et je me suis senti une sorte de devoir de sépulture de les mettre. Mmh. C'est-à-dire, ils me donnaient quelque chose de très intime. C'est plus que Joseph Favre, tandis que là, c'est Josette Amalet, Mila Bougy, etc. Et puis aussi il fallait pas parler patois, etc. Mais en même temps, ils étaient complètement fécondés par La Fontaine. Je sais plus qui a dit que La Fontaine était avec les morales, la morale de La Fontaine, etc. C'est une culture commune extraordinaire. Et puis, des choses que François Ducret avait fait en bois une petite statue de Pétain. Avec tête amovible, il pouvait mettre De Gaulle selon les événements. Le paysan doit survivre quoi qu'il arrive.
Dans des tas de
choses. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Je ne sais pas le patois, etc. Mais c'est aussi une très belle langue. Mmh. Et une phrase de Ducret. Alors, Ducret dit, est-ce que tu sais pourquoi les habitants de l'Averne sont musiciens? Non. Parce que pour dire du miel, du lard et du sirac, ils disent « do mi, do si et do si la ». C'est lui qui avait remarqué, il y avait un jeu avec le langage, et chacun avait sa façon de parler, chacun avait son style, chacun avait son juron aussi. Je me souviens de quelqu'un dont le juron était « fléau ». Fléau. Ah, fléau. Voilà.
Violent.
Donc c'est pas du tout le français contre le patois, ça existait bien sûr, mais en même temps ils connaissaient les deux langues parfaitement bien.
Puis il y a des sources moins pures, le langage médiatique, le langage politique, le langage scientifique que vous avez souvent utilisé dans vos pièces, c'était le cas notamment, je me souviens, dans Le Vrai Sang. Là c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt une mise à nu des discours.
D'une langue mécanique.
Une volonté de faire entendre qu'il y a des mots en fait, mais dont le sens est perdu.
Oui, en fait, non, mais aussi une ossification, une mort du langage, en fait, c'est la propagande aussi, voilà.
C'est l'opposé, d'une certaine façon. Mais ce qui est fascinant, toujours, chez vous, Valère Novarina, lorsque vous reprochez sans doute votre mère, mais l'enchaînement... Si on lit un texte de Novarina une première fois, on peut être un peu déconcerté, pas vraiment comprendre ou chercher un sens, et puis... C'est l'expérience que j'ai vécue tant et tant de fois, c'est que quand ces mots vous arrivent, de la scène vers la salle, tout d'un coup, le sens est là. Si on analysait mot après mot, ce serait plus compliqué, mais la déclamation amène un autre sens.
Oui, quelque chose comme l'ardeur du langage. La combustion, l'offrande, l'ardeur, voilà. Et ça, c'est pour ça qu'il faut... Je souligne beaucoup que les acteurs doivent reprendre les textes 10 ans après, 15 ans après, comme les violoncellistes, les pianistes, qui n'iront jamais assez vers la partition primitive. Et tout est là, et il faut revenir à ça tout le temps. Et puis, peu à peu, les langues s'accordent. C'est ce qui se passe dans le spectacle magnifique de Bellerini. Les acteurs se rejoignent. Mais aussi la sensation que j'ai, que pour un acteur, le travail, c'est comme marcher sur une arête où il faut tomber ni à gauche ni à droite. C'est très délicat et que ça tient à des rien. L'émotion tient à des rien du tout.
Alors justement, pour vous donner raison, évidemment, il y en a qui reprend depuis bientôt 40 ans un texte. C'est André Marcon, Le discours aux animaux. Il a été créé en 86. Il l'a repris de nombreuses fois et il le reprend le 22 juin. Ce sera au Festival Littérature en Jardin à Libourne. Le 22 juillet au Festival Beckett à Bannon. Il parlait au moment d'une autre reprise en 2016 au micro de Joël Gaillot sur France Culture. Écoutez ce qu'il disait.
Moi, quand j'ai eu le texte entre les mains, j'ai eu un moment de panique. J'ai dit, je n'y arriverai jamais, donc je renonce. J'étais bien déprimé, d'ailleurs. Et puis, sachant que faire, je suis allé aux eaux de Vincennes, après avoir eu les feuillets, je suis allé voir les animaux dans leur cage, et j'ai vu une femme qui lançait du pain à des animaux et qui disait « Oh, oh, oh !» Et alors, le animal est venu, là, la sonorité est apparue, et puis ça a été un premier déclic à partir duquel je me suis engagé dans le travail, mais j'ai compris qu'il me faudrait travailler, beaucoup travailler, pour grimper là-haut. Ce texte doit être complètement incarné pour qu'il prenne tout son sens, toute sa résonance. Et ce texte, comme tous les autres textes destinés à la scène, on monte sur scène pour brûler la parole que l'on prononce, pour que la combustion soit au maximum. Mais pour ça, il faut évidemment, il faut pas l'effleurer ou la regarder de loin ou qu'elle soit juste là sur l'épiderme, mais il faut qu'elle soit au plus profond. Donc c'est par le travail qu'on y parvient. Et c'est-à-dire parfois quand on travaille comme ça, c'est aride, c'est parfois extrêmement ingrat, si vous voulez, le travail de mémorisation ou de c'est un travail difficile, c'est épuisant mentalement, psychiquement et même physiquement. Et puis il y a un moment où la chose se révèle, on sent qu'elle a été dévoilée, qu'elle est là, qu'elle apparaît. Alors là, on a une consolation, une satisfaction, si vous voulez. Il y a quelque chose qui est là, comme si on avait, comme le sculpteur qui a tapé sur son ciseau, sur son marteau, et qui voit apparaître une figure.
Il en parle bien, André Marcon, de ce travail. C'est pas pour rien que c'est un de vos comédiens fétiches, Valère Novarina, mais ce travail qu'il raconte, parfois d'autres le font. On va parler dans un instant de ce travail de Jean Bellorini, mais le dernier spectacle en date qu'on a pu voir de vous à Paris, au Théâtre de la Colline, les personnages de la pensée, c'est vous qui mettez en scène. Comment est-ce que vous accompagnez vos comédiens dans ce dévoilement de la chose?
Je ne leur mens jamais. Je mens normalement, comme tout le monde, juste ce qu'il faut, mais jamais un acteur. Jamais un acteur, je lui dis que ça va alors que ça va pas. Donc, ils ont droit à la vérité. Et j'ai aussi une sorte de certitude, c'est que j'ai l'oreille absolue pour les acteurs. Pas une seule fois, je me dis, mais il était peut-être bien et je ne l'ai pas vu. Non, j'ai totalement confiance dans ce que je vois, ce que je touche. Et oui, il faut revenir sans arrêt et souvent, il faut des mois pour que les choses redeviennent justes. Et puis, il y a des mutations, des répliques qui, tout d'un coup, se déplacent. J'ai travaillé avec Nora Kriev, qui est une très bonne actrice. Elle joue à Paris. C'était bien. Bon, voilà. À Clermont-Ferrand, je crois. Et tout d'un coup, à Clermont-Ferrand, il y a une réplique qui est complètement autre. Je dis, tu as compris que c'était une truite vivante et que tu l'as pêchée à la main, la réplique. Comme la main sous le rocher. Des choses avec présence fine, délicate, surprenante de la vie. Quoi.
Alors, le cas d'espèce en ce moment, c'est Le Jeu des Ombres, actuellement à l'affiche des Bouffes du Nord à Paris. Alors, il devait être joué en 2020 dans la cour d'honneur du Palais des Papes, officiel d'Avignon, mais c'était l'année de l'annulation pour cause de pandémie. Alors, vous rappelez que vous avez un lien très fort, Valère Novarina, avec Avignon. Je crois qu'il y a 10 de vos pièces qui ont été créées, dont l'acte inconnu que vous aviez mis vous-même en scène dans la cour d'honneur. C'était en 2007. On y retrouve les obsessions liées à la question du temps, à la mort, à la disparition. Nous ne sommes pas faits pour la mort, dit Orphée enfant à la fin de l'acte 1 du Jeu des Ombres. Puis on voit apparaître Daniel Znik, Christine Fersen, Alvin Zemski, d'autres personnes disparues qui reviennent comme des personnages. Est-ce que la cour d'honneur est devenue, de fait, un des fantômes de cette pièce?
Oui, sûrement. En tout cas, Vincent Baudrier, on devait faire un spectacle une année après, il faut aller choisir un endroit où j'étais pas venu déjà, etc. Et finalement, je lui dis, j'ai vu deux endroits, c'est le Palais des Papes, c'est la cour d'honneur pour le Palais des Papes, mais indifférent. Par contre, le mur humain est extraordinaire de l'autre côté. Et à certains moments, quand j'avais des doutes sur le spectacle, je venais très tôt le matin face au mur. Et l'impression que le spectacle leur glisse des billets dans l'oreille, entre les rochers, comme au mur, etc. Et que chacun, oui, l'idée que chacun est atteint par un trait singulier. Il n'y a pas la réplique qui met tout le monde d'accord pour célébrer ceci ou cela. Il y en a comme ça, mais c'est quelque chose de très individuel et qui amène parfois, ça se remarque parfois, quelque chose qui ressemble au tarab. Je crois ce qu'on appelle le tarab dans la musique orientale. C'est que les gens poussent des petits soupirs pour encourager. Et c'est très extraordinaire. J'ai entendu récemment quand un Dizdoum Kalsoum avec ça. Quand j'étais adolescent, je n'écoutais aucun rien du rock, c'était Kalsoum. Alors, c'est extraordinaire, parce que non, c'est extraordinaire.
Alors, ce texte-ci, Je désombre, il est également particulier parce qu'il s'est agi pour vous de répondre à une commande du metteur en scène, Jean Bellorini. Votre vision ou une revisitation du mythe d'Orphée Eurydice avec un spectacle, avec aussi la musique de Monteverdi, l'Orfeo. De ce fait, est-ce que le moment d'écriture a été pour vous différent, Valère Novarina, sachant que vous ne seriez pas le metteur en scène de ce texte?
Non, ça n'a pas changé.
Ça ne change rien.
Ce qui s'est passé, quand même, à un moment, il m'a demandé le texte à la fin parce qu'il fallait commencer les répétitions. Il m'a demandé le texte, il l'a pris et je l'ai continué tout seul. Cette partie-là, c'est devenu les germes de ce spectacle des personnages de la pensée que j'aimerais beaucoup reprendre prochainement et les acteurs aussi parce que c'est quelque chose qui était assez extraordinaire, plus que d'habitude. Aussi, j'avais plus de temps pour composer le déroulé avec Pascal Lemauvert parce que d'habitude, je donne mon texte, tout de suite il faut peindre, tout de suite il faut faire les décors. Là, il y a une respiration plus ample.
Voilà. Personnage de la pensée, également édité chez POL. Oui. Mais dans ce spectacle de Jean Bellorini, donc mise en scène par Jean Bellorini, justement, une fois le texte confié au metteur en scène, est-ce que vous le laissez complètement faire? Ou est-ce qu'il vous a d'ailleurs demandé aussi de venir?
Non, il ne m'a pas demandé du tout.
Et est-ce que vous auriez souhaité être là? Est-ce que vous êtes venu un peu?
J'étais quand même un peu curieux, mais bon, et c'est bien aussi que chacun fasse son travail. Mais ce qui est fort dans le texte, et on l'a pas trouvé tout de suite, on l'a trouvé, c'est l'idée, le jeu. C'est parce que tout de suite, les gens comprennent que c'est aussi, c'est pas que ça, mais aussi pour les morts. Donc ils sont là, il y a quelque chose. Et avec, un spectateur, il y a deux jours, a dit quelque chose de très juste, que ce spectacle est un peu comme une veillée. Il y a une veillée, les gens autour de lui, l'un raconte ça, il y a des choses comme ça qui arrivent naturellement, avec une sorte de douceur aussi, et puis les pianos, le charivari des pianos, etc. C'est un très beau spectacle.
Alors, je crois savoir que, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, pendant longtemps, vous alliez voir toutes les mises en scène des spectacles de vos textes.
Oui.
Vous continuez à le faire?
Oui.
Le plus possible.
Mais il n'y en a pas tant que ça.
Il y en a quand même quelques-uns de par le
monde. Je vais voir, et alors si ça se passe mal, j'ai honte. Et je descends dans mon siège comme ça, je m'annihile, parce que je peux pas dire. Et c'est eux qui sont trompés. Non, c'est le texte qui est épouvantable. Voilà, il faut accuser le texte aussi.
Bon, le jeu des ombres, alors c'est un bon texte.
Ben oui, et puis il y a aussi un rapport avec le négatif, que les phrases disent quelque chose de positif. Et finalement, c'est cassé. L'idée que le langage doit aussi porter sa fin avec lui. Il doit pas trop croire saisir les choses. Enfin voilà. Il faut une critique du langage et parfois je suis sidéré par des choses que je comprends pas très bien, mais comme ça me reviendra dans 3 minutes.
Ouais, vous savez beaucoup écrire. Moi, je vais vous citer un autre passage. Ça fera revenir celui-là. Un moment de la pièce où Eurydice est nommée Dame de Pique et Orphée valet de carreau. La Dame de Pique dit « La parole existe-t-elle avant la pensée ?»« Oui, » répond valet de carreau. « Et qu'est-ce qu'elle vous dit ?»« Elle n'accompagne pas le drame, elle le délivre comme un cristal. Elle peut parfois aller jusque là où s'ouvre l'espace, où se joue la pensée. » On y revient toujours.
Oui,
c'est le verbe qui agit.
Oui, et puis surtout, il faut qu'il y ait vraiment le langage et l'espace, les deux protagonistes. S'il n'y a plus d'espace, c'est-à-dire parce qu'il y a des micros, c'est fini, tout ça c'est fini. Je trouve que la beauté, c'est le son non amplifié, mais malheureusement, le théâtre devient de plus en plus... Mais ça tue quelque chose. C'est pour ça que les sermons avec des micros sont bien moins bons qu'il y a 40 ans. Parce que c'est un autre rapport à la construction des choses dans l'espace. Et une conversation, un échange, etc. Pour moi, c'est une sculpture entre nous. Une sculpture de nous, entre nous. Je pars pas de mes idées, je vous les vends, etc. Il n'y a rien de frontal. On anime un corps mystérieux, un corps de langage qui est entre nous deux, qui a été créé par le fait qu'on s'est adressé la parole.
Oui, mais dans cette...
Le vendredi saint spéculatif. chez Hegel. J'ai acheté toute la quantité d'éditions du spéculatif. C'est extraordinaire, c'est incompréhensible aussi, mais c'est tellement beau l'idée de mouvement, de miroitement. Voilà, de miroir et de battement de quelque chose de mécanique. Alors je suis, ça fait 2 ans que je vis avec cette phrase tout le temps là. De même qu'une fois, pendant quelques années, j'avais sans arrêt le mot logos, la parole, dans la tête. Sans arrêt, 50 fois par jour. C'est logos, ça m'a pas quitté. Aussi l'obsession des mots, comme ça, des mots qui. Mais aussi que le langage libère. S'il y avait des émissions philologiques à 8h le soir, ce serait, les gens seraient passionnés. Ils sont passionnés par le langage. Ils savent que c'est là qu'on les roule aussi.
Et c'est là qu'on peut les libérer.
Et voilà. C'est le bien et le mal, et qui sortent de le délivrance, livrer, le livre, c'est quelque chose de très concret, de l'ordre du don, de la disparition qui fait que la chose est toujours là, ou je sais pas. Le monde n'est pas mécanique comme on croit. Il est traversé d'air, de vent, d'esprit, de métamorphose, de dédoublement, etc.
Et c'est sur ces paroles qu'on va devoir conclure notre entretien, notre logo va s'arrêter là entre nous. La pièce Le Jeu des Ombres, c'est jusqu'au 5 mai au Bouffe du Nord à Paris, mise en scène de Jean Bellorini, texte publié aux éditions POL comme Les Personnages de la Pensée, ça c'est le dernier en date, donc avis au programmateur. Valère Novarina a envie de reprendre ce spectacle. Hein. Vous l'avez entendu, merci d'avoir été notre invité.
Merci beaucoup.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Éclectisme et technique. Au jeu des devinettes, ce sont les deux mots à employer pour faire deviner l'identité de Bill Frisell, guitariste de génie. L'Américain navigue depuis plus de 40 ans entre les genres, allant du jazz contemporain à la country, en passant par le rock expérimental ou le blues. Son premier enregistrement remonte à l'année 1982 avec l'album In Time, paru sur le label allemand ECM. Collaborateur historique des jazzmen Paul Motian et John Zorn, Bill Frisell s'est aussi fait remarquer pour ses prestations avec Elvis Costello et Marianne Faithfull. Son nouvel album, Orchestras, est comme son nom l'indique un projet à l'ambition symphonique. Le guitariste s'est associé avec le Brussels Philharmonic et l'Umbria Jazz Orchestra pour un exercice tout en mesure et en tendresse. Avec Thomas Morgan à la basse et Rudy Rothstein à la batterie, le trio reprend plusieurs standards et compositions de Bill Frisell, arrangées par Michael Gibbs. Nocturne, vulgaire, titre ô combien rimbaldien, et notre son du jour. C'était Nocturne Vulgaire de Bill Frisell, qui sera en concert à Coutances le 11 mai dans le cadre du festival Jazz sous les pommiers.
France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où commencez-vous cette semaine ?
Bonsoir Arnaud, je suis à Strasbourg, qui est cette année capitale mondiale du livre. Alors c'est la première fois qu'une ville française reçoit cette labellisation de la part de l'UNESCO. Capitale mondiale du livre, c'est depuis 2001. L'année dernière, c'était à Accra. Et l'année prochaine, ce sera Rio de Janeiro. Mais pour l'instant, depuis cette semaine et jusqu'en avril 2025, eh bien c'est Strasbourg qui doit faire rayonner la littérature et la lecture partout en ville. Alors aujourd'hui, pour cette semaine d'ouverture, eh bien ce sont les médiathèques, toutes les médiathèques de la ville qui sont ouvertes et qui proposent un programme de tables rondes, de rencontres, de dédicaces. Alors là, je me trouve justement devant la médiathèque Olympe de Gouges. Je vais rentrer pour voir ce qu'on peut y voir justement. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se passe dans cette salle là où vous allez nous faire rentrer ?
Le spectacle Brigande, l'adaptation des trois brigands d'Ungerer par la compagnie Mosca, et c'est tout de suite.
Ben super, on vous suit, merci.
On va commencer par un parent, un enfant. Parce que les deux parents avec les enfants, on n'arrivera pas à faire rentrer tout le monde, on va essayer prioritairement de faire rentrer les enfants.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
On vient de sortir de la salle du spectacle des Trois Brigands. Est-ce que vous comprenez l'engouement de ce spectacle-là ? Il y avait un monde de fou, tout le monde n'a pas pu rentrer dans cette salle. Alors peut-être que ça tient évidemment aux Trois Brigands qu'on a un peu tous lu, j'ai l'impression. Peut-être que ça tient à l'auteur. Comment vous l'expliquez ?
Oui, évidemment, les Trois Brigands, et en plus une adaptation version fille, est tout à fait particulière et attire le public assez naturellement, parce que Tommy Ungerer, c'est une figure locale depuis toujours. Il était d'ailleurs l'illustrateur de nos premières cartes d'abonnés. Et il y a le musée Tommy Ungerer, enfin, ses histoires, tous les enfants du coin et de France et de Navarre l'ont lu, évidemment.
Alors l'année mondiale du livre, capitale mondiale du livre de Strasbourg, ça dure toute l'année, ça dure un an, ça vient de commencer, c'est jusqu'en avril 25. Comment les médiathèques vont s'organiser pendant cette année-là, qui est quand même une année donc dédiée à la lecture et à la littérature, donc vous êtes un peu les acteurs de premier plan.
Oui, j'aime à dire que Capitale mondiale du livre, nous, les médiathèques, nous le faisons tous les jours, depuis toujours. Et ça sera peut-être une année particulière, parce que un coup de projecteur très très fort sur notre programmation. Et je dirais que nous sommes effectivement dans le dispositif Capitale mondiale du livre, une brique essentielle, mais pas la seule. Il y a aussi d'autres acteurs locaux, culturels, associatifs, qui participent à cet événement majeur.
Merci beaucoup.
Merci madame.
Je m'appelle Camille Dirclair et je suis directrice de la culture de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg.
Alors qu'est-ce que ça représente pour la ville de Strasbourg, cet événement capitale mondiale du livre ? Je vais vous faire un aveu, moi, avant que Strasbourg soit nommée, je ne sais pas quelle est la terminologie exacte, mais en tout cas je ne connaissais pas ce label de l'UNESCO. Comment, en tant que ville, vous avez pensé y postuler ? Et puis qu'est-ce qu'aujourd'hui ça a comme impact ?
Alors, initialement, c'est vraiment une prise de position politique, puisque ce sont nos élus, à l'arrivée au pouvoir, qui ont souhaité mettre en œuvre cette candidature de Strasbourg au titre du label Capitale mondiale du livre UNESCO, puisque à Strasbourg, on a évidemment une tradition très ancienne du livre et de la lecture, et Strasbourg est encore aujourd'hui une ville de lectrices et de lecteurs. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui dans l'ensemble des sites que nous avons ouverts pour la grande lecture de Strasbourg.
Vous dites ancienne, je fais juste une petite aparté avant de vous laisser répondre. C'est ici que Gutenberg a quand même créé l'imprimerie, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, oui, c'est tout à fait ça. Gutenberg a fait un passage de 10 ans à Strasbourg et c'est ici qu'il aurait développé son système d'imprimerie et qu'il a ensuite été développé à Mayence.
Donc vous aviez une légitimité historique, disons, à postuler pour ce titre-là. Et concrètement, une fois qu'on l'a, qu'est-ce que vous attendez comme impact ?
Alors l'impact, en fait, que l'on attend, c'est une émancipation de la population, un rapport au livre renforcé, une manière, en fait, aussi, bien sûr, de soutenir les créatrices, les créateurs, les auteurs, les autrices, les librairies, toute la filière du livre, tout le secteur du livre qui est très important à Strasbourg. Donc c'est, je dirais, des impacts qui sont vraiment de diverses natures, mais qui permettent, en tout cas, de renforcer la pratique de la lecture et également la filière du livre.
Merci beaucoup.
Étape suivante, une autre médiathèque ouverte, la médiathèque André Malraux, où se tiennent notamment les grands entretiens de la journée. La salle commence à se remplir.
J'ai ici Marois Olek, qui est une journaliste libanaise, créatrice de contenu, féministe et défenseur des droits humains. Elle est accueillie depuis 21 mars 2024 ici, à Strasbourg, dans le cadre du réseau ICORN. Strasbourg a donc rejoint ce réseau ICORN en 2022. C'est un dispositif de ville-refuge, c'est-à-dire que les écrivains opprimés et persécutés sont accueillis dans différentes villes de France grâce à ce réseau.
Bonjour, je m'appelle Fatou Diom. Je suis franco-sénégalaise, donc née au Sénégal, au Saloum, et en Alsace depuis l'autre siècle.
Vous avez accepté d'être une des marraines de cet événement, Strasbourg, capitale mondiale du livre. Pourquoi ?
Parce que Strasbourg est notre marraine. C'est une ville qui nous accueille et j'habite là depuis plus d'un quart de siècle maintenant. Je ne dirais pas exactement, sinon ça me rajeunit. Mais j'y ai fait mes études, j'y ai mes amis, j'y habite. Il y a Saint-Odile qui veille sur nous, donc c'est normal d'être parmi les marraines. Mais c'est l'inverse, c'est Strasbourg qui nous marraine.
Comment vous l'envisagez, cette place de la lecture et de la littérature en général aujourd'hui en France? Il y a eu plein d'études récemment qui disaient que les gens lisaient de moins en moins. Pourtant, on voit dans ces rencontres comme ici, ou quand vous dédicacez des livres, ou dans des grands entretiens, il y a de plus en plus de gens qui sont là. Comment vous, vous l'appréhendez?
Ah, mais moi, je pense que c'est un plaisir que nous devons partager. Et comme ça commence jeune, il faut aller dans les écoles, ce que je fais très souvent. Donc, on leur partage cette passion, cette folie, cette étincelle de poésie qui fait que quand on a commencé à lire, on continue, on n'arrête pas. Je me souviens d'avoir lu Le Petit Prince en étant très jeune. Ça a été le premier livre que j'ai acheté en librairie. Et depuis, j'ai acheté des tas d'autres livres. Et c'est une gourmandise qui ne s'arrête pas. Mais sauf que cette gourmandise-là, elle nous fait grandir. C'est une année de voyage intérieur, extérieur, spirituel. Voilà.
Bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Un départ, Philippe Claudel est en train de signer ses livres ici à la médiathèque André Malraux.
Pour vous dire, si je le fais signer, c'est pour vous dire ça.
C'est gentil.
Pour aller du film. Michel.
Michel.
Avec accent grave et le...
Je m'appelle Anne-Marie Bock, je suis chef de projet du Strasbourg, capitale mondiale du livre UNESCO 2024.
Alors là, la première semaine, la semaine d'ouverture se termine. Quels sont les autres grands rendez-vous pendant cette année ?
Alors, il y aura d'une part des rendez-vous professionnels. Il ne faut pas l'oublier que Strasbourg, capitale mondiale du livre, l'objectif prioritaire, c'est le grand public dans tous les quartiers et à tous les âges de la vie. Mais c'est également une année qui nous connecte de façon importante avec tous les enjeux de la filière du livre. Donc, on démarre le 13 mai avec les rencontres nationales de l'édition jeunesse sur la place de l'album. Début juin, on parlera de l'écriture numérique pour les adolescents. Et puis, un grand événement qui sont les rencontres nationales de la librairie. Ça, c'est une partie qu'il ne faut pas sous-estimer. L'autre partie, c'est que l'année, on l'a découpée en 5 grands temps, puisqu'en fait, il y a 1000 activités tout au long de l'année. Donc forcément, l'enjeu, c'est de donner des repères au public, puisque autrement, ça peut être, c'est foisonnant, c'est multiple.
Ça pourrait se diluer un petit peu dans le temps.
Voilà.
C'est la 25e année que Capitale Mondiale du Livre existe. C'est la première fois que c'est une ville française. L'année prochaine, ce sera Rio. Est-ce que quand on fait partie de... Quand on a eu une fois ce titre-là, on fait partie d'une famille. Est-ce que vous êtes, par exemple, allé dans les villes qui avaient déjà eu ce titre-là précédemment? Est-ce que vous êtes en communication avec Rio? Est-ce que ça devient un réseau, finalement?
Aujourd'hui, c'est vraiment un réseau qui se vitalise, qui se construit vraiment. Et nous avons des relations quasi constantes avec le réseau. Moi, j'ai été moi-même à Accra. On a pu avoir un temps d'échange pendant la semaine d'inauguration avec la ville de Rio, d'Accra, un certain nombre de partenaires de la filière du livre. Et en juin, nous aurons notre réunion, une de nos rencontres annuelles à Tbilissi, en Géorgie, pour parler aussi des grandes thématiques qu'on voudrait partager à l'échelle internationale. Et je crois que ça, c'est assez magnifique à dire. C'est que c'est aussi une histoire d'amitié entre les villes et 25 ville, ça peut être aussi une force d'expression. Et ce réseau, demain, c'est vraiment un réseau qui peut avoir une vraie force de levier de transformation, y compris auprès de l'ONU, auprès des grandes organisations internationales. Et à leurs yeux, je me fais leur porte-parole d'une certaine façon, c'est à l'échelle des villes que peuvent se réaliser beaucoup de changements.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, je serai au musée départemental Albert Cagne à Boulogne-Billancourt.
Merci Marie et à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.